Claude Boutry, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler aujourd'hui d'une aventure assez étonnante.
Je vous parle de notre voyage en Chine que nous avons effectué l'année dernière du 28 mai au 11 juin. Mmh. Sur place, c'est 3000 km, c'est 4 villes visitées. On est parti, on a eu le bus, le train, l'avion et même le téléphérique, puisque sur la Grande Muraille, il a fallu y monter. Alors le principe, c'est le principe du binôme. Il y a une personne valide qui est responsable d'une personne handicapée. Et donc tous les efforts, les obstacles physiques peuvent être résolus avec solidarité et le partage, c'est le principe. J'ai l'habitude de dire que nous étions partis à 20 personnes et nous sommes revenus à 20 amis parce qu'il y a une intimité extrêmement profonde qui s'est installée dans le voyage. Mmh.
Alors, cela suppose bien sûr, pour aller en Chine, une préparation minutieuse et des contacts là-bas.
Alors, la préparation minutieuse qui est très longue, puisque notre association fabrique son voyage. Elle n'utilise pas les voyagistes européens. Donc, il a fallu, traiter le voyage international, trouver le tour opérateur local, rechercher les contacts et l'organisation. Au total, c'est 18 mois. J'arrondis à 500 mails. Avec la barrière de la langue, ça n'a pas toujours été facile. On a eu une aide extrêmement importante d'une étudiante chinoise qui était stagiaire et qui était à l'université de Lille ici, à l'école polytechnique, et elle était présidente du club des amitiés franco-chinoises. Et elle nous a bien aidés à créer ce voyage.
Alors, votre association s'appelle Aventure et Partage. Donc, l'idée, c'est de permettre à des gens de rencontrer d'autres gens, d'autres pays.
Oui, je pense même qu'on peut être plus général, parce que la finalité d'Aventure et Partage, c'est plus de favoriser la reconnaissance sociale de la personne handicapée, afin qu'elle ne soit plus exclue de la société. Et le voyage, c'est le moyen principal pour atteindre ce but. C'est l'insertion sociale.
Alors, vous avez déjà organisé plusieurs voyages, l'un en Afrique, l'autre en Chine. Si on fait un petit peu le bilan ou la comparaison avec la vie ou le statut des personnes handicapées en France et dans ces différents pays, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Il n'y a aucune comparaison possible parce que notre objectif, ce sont des voyages en terre lointaine dans des pays non aménagés où le statut de la personne handicapée n'existe pas. Par exemple, en Chine, on n'a pas vu un seul fauteuil dans la rue, à part des Européens. Parce que les Chinois, ils n'ont pas du tout assimilé ce problème de handicap. Je vais prendre un chiffre qui est bien parlant. La première semaine, la visite des monuments et des curiosités de Pékin représentait 800 marches. Et pas un seul pleurinquiné. Alors 800 marches, ben, les dos, ils pleurent un petit peu.
Thank you. En France, il y a de nombreuses lois, règlements et puis aussi des dispositions qui sont prises pour permettre l'accès des personnes handicapées à différents bâtiments publics, notamment. Visiblement, dans les pays que vous avez visités, rien n'est prévu. Et comment font ? Alors, est-ce que vous avez rencontré des personnes handicapées là-bas et comment elles s'organisent ?
Donc, dans certains pays, par exemple en Afrique ou en Australie, par exemple, où on a un pays très aménagé, là, on voit beaucoup de handicapés, mais en Chine, on n'en voit pas. On voit pas de personnes handicapées, elles restent chez elles, et je pense qu'ils n'ont pas encore de politique pour développer la place de la personne handicapée dans la société. En France, je dis rien, quand même un aménagement, on va dire qu'on est dans les pays favorisés du globe. Parce qu'on a fait Thaïlande, Liban, Vietnam, Australie. Australie s'est aménagé. On a fait des pays très lointains. Le prochain objectif, c'est Équateur. Alors là, on est certain qu'il n'y aura rien aménagé. Parce que c'est l'Amazone et les Andes. Mais le but, c'est de montrer que la personne handicapée peut affronter ce genre de choses à condition qu'elle soit accompagnée. Toute seule, c'est impossible.
Donc, ce voyage en Chine a duré combien de temps ?
Donc, le voyage de 15 jours. Je vous donne rapidement le programme. Les 8 premiers jours, nous étions à Pékin et ses alentours, donc y compris la Grande Muraille. Ensuite, nous avons pris le train pour aller voir Xi'an, où nous sommes restés 2 jours. Et à Xi'an, on a été voir évidemment l'armée de terre enfouie. Ensuite, on a pris l'avion, nous sommes allés à Shanghai, où là, nous sommes restés 4 jours. Et ensuite, nous sommes descendus dans une petite ville, enfin une petite ville, 2 ou 3 millions d'habitants quand même, qui s'appelle Hangzhou, qui est à 300 km au sud de Shanghai, où là, nous avons rencontré une équipe de rééducation de personnes handicapées. Je crois que c'est les seuls handicapés qu'on a pu rencontrer en Chine.
When what?
Alors, on peut peut-être vous demander maintenant vos impressions globales sur la Chine. Quel est l'intérêt pour vous d'être allé en Chine? Quelles découvertes vous y avez faites?
Alors, globalement et humainement, c'est un pays qui est, j'allais dire, il faut aucun repère occidental pour y aller, parce que tout est nouveau, tout est différent. On n'a rien à leur apprendre, ça c'est certain. Ils s'en savent certainement, ils ont notre façon de vivre, qui est beaucoup plus collective, mais je crois que la grande différence qu'on peut souligner entre nos sociétés, c'est au niveau individuel et social, où là, on pourrait leur apporter quelque chose.
Qu'est-ce qui vous a étonné en arrivant en Chine ?
Le monde. Il y en a partout, 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 tout le temps. Et puis là... Enfin, une sympathie spontanée, les gens venaient chez nous, non pas un regard inquisiteur et malsain, mais un regard curieux de découverte, ils n'avaient jamais vu. Vous pensez, un fauteuil sur la Grande Muraille, je crois que les Martiens qui seraient arrivés, ça aurait été pareil. Donc c'est un peu la curiosité, mais elle n'est pas malsaine. C'est une découverte, c'est de la gentillesse qu'on voit dans leurs yeux. Mais je crois que ce qui nous a étonné, c'est que ça ne résonne pas du tout, comme on le fait chez nous.
Et au niveau des sites que vous avez visités, des paysages?
Alors là, la richesse patrimoniale de la Chine, c'est 5000 ans d'histoire, c'est bien plus que tout ce qu'on a chez nous. C'est, je ne sais pas, moi, la révolution culturelle n'a pas tout fait disparaître. Il reste beaucoup de traces des empires, le site historique de moins 3000 ans hein, maintenant. On habituellement, c'est ce qu'on a dit, un Pékin, la Chine d'aujourd'hui, Xi'an, la Chine d'hier, Shanghai, la Chine de demain.
Cette histoire de la Chine et cette grandeur passée, et aussi bien sûr présente, est-ce qu'elle a été connue des gens de votre groupe avant de partir, ou est-ce que c'est une découverte?
Non, c'est une découverte. Disons, en dehors de que les gens s'étaient renseignés, avaient été briefés, on va dire. C'est une découverte parce que la puissance que l'on ressent à chaque instant dans un pays comme ça, c'est quelque chose qu'on ignore en Europe, ça. Je voulais vous parler pour montrer le modernisme. Et la puissance économique du pays, nous avons un des aventuriers qui a présenté une phlébite aiguë, c'est-à-dire un accident de santé très grave. Nous sommes allés au centre hospitalier de la ville de Hangzhou, évidemment dans le quartier VIP. On a vu un plateau technique mieux qu'au CHU de Lille. Échographie, intervention, il y a eu 10 minutes d'attente et on a eu l'accès aux soins et puis une heure et demie après, on a pu ressortir. Le médecin de l'équipe a trouvé un plateau technique que lui, urgentiste de centre hospitalier, n'avait jamais vu.
管时空怎么转变，世界怎么改变，你的爱总在我心间，你是否明白？我想超越这平凡的生活，注定现在暂时漂泊，无法停止我内心的狂热，对未来的执着。拥抱着你 ，Oh my baby， 你看到我在流泪，是否爱你让我伤悲，让我心碎？拥抱着你 ，Oh my baby， 可你知道我无法后退，纵然是我苍白憔悴，伤痕累累。不管时空怎么转变，世界怎么改变，你的爱总在我心间，你是否明白？我想超越这平凡的生活，注定现在暂时漂泊，无法停止我内心的狂热，对未来的执着。拥抱着你
Selon vous, pourquoi ne connaît-on pas cette histoire de la Chine? On connaît bien sûr l'Égypte, on connaît la Grèce, le monde antique, on se résume un peu à cela dans nos livres. La Chine, pourtant, a beaucoup d'histoires, et peut-être ça aurait été intéressant de connaître cela en étudiant à l'école, au lycée.
Je pense que la civilisation chinoise est mal connue parce que c'est un pays très lointain. Même à l'heure actuelle, on a quand même eu 13 heures d'avion pour y aller, pour revenir, parce que pour aller, ça va un petit peu plus vite, Paris-Pékin, c'est, je veux pas dire bêtise, 11 heures, je crois. Et je crois que c'est surtout ça, alors la seule connaissance historique de la Chine, outre les grandes découvertes, ça a été les voyages italiens de Marco Polo, etc. Sinon, je crois, autant l'Afrique était plus proche de notre civilisation, plus connue, la Chine est restée lointaine. Un peu moins maintenant, la porte de l'Europe, c'est Shanghai maintenant. Donc, on parle plus facilement de la Chine, mais la culture chinoise est tellement différente que ça explique qu'elle n'a pas été connue.
On a l'habitude en France d'avoir un climat relativement tempéré. En Chine, il y a des contrastes assez forts d'une région à l'autre. Vous avez ressenti un peu cet effet ?
Oui, bien sûr, parce que la Chine, c'est un pays à la taille continentale. Quand on est à Pékin, à 51 degrés de latitude, mais très à l'est, on est dans un climat chaud continental. Et quand on est à Shanghai à 40 de latitude, on a les chaleurs qu'on peut avoir en Afrique du Nord ou en Grèce. Mais c'est pas du tout un climat tempéré. Il y a un climat... Dès qu'on rentre dans les terres, on a un climat continental extrême. Et le climat doux, modéré, il est en bordure, je sais pas, c'est... bordure de la mer de Chine, en fait.
Est-ce que ça vous a posé de grands problèmes dans votre voyage, ces effets de température?
Non, on n'a pas eu de gros problèmes parce que les infrastructures sont relativement aménagées à cette chaleur et que les aventuriers sont des gens qui sont, on va dire, habitué à subir un petit traitement thermique. Il y a eu pire. L'Afrique, c'était pire.
Donc, vous étiez allé avec un statut de visiteur touriste?
Oui. D'un point de vue administratif, nous avions un visa touristique, individuel d'ailleurs, pour éviter de faire entrer le groupe au complet en cas de, je sais pas, si un blessé ou un malade, les autres peuvent rester, ce qui est mieux quand même. Mais on a rencontré des Français à Pékin qui travaillaient à Pékin et qui avaient en tant que, je sais pas ce qu'on dit, ils amenaient l'entreprise France dans la ville de Pékin. Donc c'était des visas qui sont plus professionnels.
Vous avez eu l'impression que c'était compliqué d'aller là-bas pour un touriste normal, j'allais dire?
Les grosses difficultés, ça a été de rentrer le matériel. Le matériel, sinon c'est l'accès au pays est devenu simple. Il suffit d'acheter un visa et puis de... Y a pas... Mais les grosses difficultés ont été le matériel, en particulier le matériel audio-vidéo, puisque nous avions une équipe de professionnels cinéastes qui nous a accompagnés et qui se sont vus, évidemment, confisquer leur matériel aux douanes. Il a fallu l'aide pour récupérer le matériel. Il y a une antenne de TF1 à Pékin qui nous a bien aidé à ce sujet.
Sinon, pour un visiteur touriste normal, il peut emmener sa caméra.
Oui, alors mini-appareil pas trop gros, parce que un mini-appareil numérique, ça passe. Une webcam, ça passe. Une petite caméra numérique, ça passe. Mais dès qu'on passe la caméra d'épaule... Tout ce qui peut être pseudo-journalistique ne passe pas la douane.
从不以为爱最美。
静，月圆水最温暖这暧昧，最似是而非，让那直觉自己发挥，他一直给相信爱无悔，爱无悔太绝对，他从不以为爱最美，他说那全是虚伪，像荒野的玫瑰，用脆弱的花蕊想抗拒绽放后的枯萎，最温暖却暧昧，最似是而非，让那直觉完全发挥，他一直给每次给有几心意味，心碎也无所谓，你真心给是而非，让那直觉自己发挥，每一次给让人回味，那感觉久久不退，像一场宿醉，
au cours de votre voyage, quels sont les désagréments les plus importants que vous avez subis ?
Les désagréments les plus importants, ça a été un changement de programme en dernière minute, alors que nous avions organisé des événements, des rencontres, ou des... puis en dernière minute, le guide nous expliquait que suite à un contact qu'il avait reçu de telle ou telle administration, la visite qui était prévue n'a pas lieu, qu'elle est remplacée par une autre, des choses comme ça, quoi. Sinon, au point de vue, on n'a pas eu de gros problèmes au point de vue circulation. Les conditions de transport sont acceptables. On roule pas sur des pistes, il y a des macadam quand même. C'est pas ça. Non, la Chine est un pays développé. Ah, je vais dire que, au point de vue ustensiles de nourriture, c'est pas un cadeau pour les handicapés de manger des baguettes. Heureusement, il y a des doigts qui aident bien. Par contre, un restaurant chinois en France n'a rien de ce qu'on mange là-bas. Là-bas, les plats s'en succèdent sur un espèce de table tournant, de plateau tournant. Et on sert à fur et à mesure que ça passe. Il n'y a pas du tout de service à l'assiette comme on peut trouver chez nous. Et il y a une variété de légumes extraordinaires, des produits qu'on ne connaît absolument pas. Les viandes, c'est plus rare, sauf des volailles de toutes sortes. et on mange tout le temps et abondamment. C'est impossible d'avoir faim dans un pays comme ça.
La nourriture, on la trouve dans les restaurants, mais on la trouve beaucoup dans les rues, les petites choses.
Alors oui, hein, tout le temps dans la rue. Alors là, c'est des grillades. Et puis à des prix défiant toute concurrence, on peut tout le temps acheter quelque chose. Parce que je crois que c'est aussi un moyen d'existence pour les vendeurs à la sauvette. Ils présentent, je sais pas moi, il y en a vu des insectes grillés, des trucs qu'on connaît pas du tout chez nous. C'est pas si mauvais.
Et donc, dans les plats qui vous ont marqué, est-ce qu'il y avait un plat favori peut-être?
Bon, en dehors des fameux canards ou machin, moi je crois que ce qui nous a le plus marqué, c'est les apports de légumes et de poissons. Et là, bon, c'est pas des grillades, souvent c'est des cuissons bouillies. Mais non, il n'y a pas eu un... C'est pas de la gastronomie, c'est de la nourriture, on va dire. Mais c'est pas mauvais, on peut pas dire que c'est pas... On n'est pas revenu avec un mauvais souvenir de l'alimentation.
Alors justement, au retour, quand vous retournez dans un restaurant chinois, vous avez quelle impression en France?
C'est tout sauf chinois. Non, là, c'est vraiment ce qu'on appelle le restaurant chinois. Je sais pas, moi, la fondue de poisson ici à Lille, ça n'a rien à voir avec la fondue là-bas en Chine. Donc, je crois qu'il y a une question de légumes, d'apport qu'on n'a pas chez nous et que là-bas, ils nous présentent d'autres choses.
Est-ce qu'un vrai restaurant chinois avec la nourriture traditionnelle chinoise, ça fonctionnerait dans le nord de la France?
Je crains que on ne puisse pas obtenir les mets, les matières premières qui poussent en Chine. Elles seraient peut-être plus assez transportables si elles arrivaient chez nous. Moi, je ne sais pas si ça fonctionnerait. D'un point de vue commercial, pourquoi pas? Mais il n'y a pas... Non, je crois que c'est trop différent.
Et si ça existait, vous seriez tenté d'y aller parfois?
Oui, ça serait peut-être la curiosité de retrouver, mais je n'ai pas un souvenir gastronomique qui fait qu'on aurait envie d'aller manger la nourriture chinoise, quoi.
Et dans ce développement, qu'est-ce que vous avez constaté de positif et de négatif ?
Alors, du côté des privilégiés, c'est-à-dire 10% de la population, on peut dire qu'ils ont matériellement une aide. Par exemple, nous avons visité une université du troisième âge où ils prennent en charge leurs personnes âgées. Donc, je pense que du côté défavorisé, on trouve que la Chine nous a montré, nous étions les touristes, on nous a montré la vitrine. Parce que d'après ce qu'on a entendu dire, dans le fond des campagnes, les conditions ne sont pas aussi bonnes.
Alors, justement, est-ce que vous avez ressenti chez le 1 milliard 2 ou les gens qui ne sont pas encore touchés par ce développement, plutôt de l'optimisme, plutôt du pessimisme ou de la résignation?
Je pense qu'on n'a pas ressenti dans la mesure où on ne les a pas pu les contacter. On n'a contacté que les 130 millions de personnes, enfin pas tous, mais que dans ce milieu-là. Donc on n'a pas senti, mais par contre, la résignation, on l'a bien senti, parce que c'est un peuple grégaire, en fait. C'est pas un Chinois, c'est un groupe de gens qui suivent une instruction. Alors, une grande qualité qu'on a découvert, c'est leur potentiel de travail, parce que ça travaille jour et nuit, tout le temps. Ça grouille tout le temps d'activité.
Sinon, comment vous avez perçu les effets du progrès, entre guillemets, c'est-à-dire du développement de la Chine?
Je pense qu'on l'a perçu de telle façon qu'il n'y a pas de partage. C'est ceux qui ont une garde et les autres, ils suivent. Mais il n'y a pas cette notion de partage du progrès. C'est une société riche, mais avec beaucoup de pauvres.
Si on prend en compte ce que vous venez de dire, la France est plus sociale que la Chine.
Indéniablement. Il y a un partage 10 ou 20 fois supérieur chez nous que là-bas. La Chine est un pays très riche, bien plus riche que chez nous, moi j'ai trouvé, mais où il y a bien plus de pauvres que chez nous, ou bien les pauvres sont plus pauvres.
Alors, dans le paysage, les paysages que vous avez rencontrés, qu'est-ce qui vous a étonné, voire ébloui?
Alors, c'est surtout les paysages urbains, puisque nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion d'aller dans les campagnes. Un paysage urbain, ce qui est extraordinairement ébloui ou choquant, c'est que dans le même endroit, il y a la présence de l'ancien et du moderne. C'est-à-dire qu'on peut voir un temple de Confucius il y a 2 ou 3 000 ans, et à côté un building de 50 étages. À Shanghai, c'est flagrant. Ce mélange continue entre le modernisme et les monuments du passé. Et ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir chez nous, ça.
新鲜保留原味，浅尝一。 想念情绪的你，感觉上有些酸，再回味又变成甜，快乐的好像环游全世界，我们的爱最新鲜，保留原味，感情多真，飞越远，感受越明显，不能见太想念，一见面就更依恋，甜蜜是情心情才是浪漫的终点，用眼睛微笑，手心说爱，心里真甜，哪怕再爱不能念，只想见就见，但可以用珍惜把握时间，我们的爱最新鲜，保留原味，欣赏一遍，闭上眼，情绪特别，感觉上有些酸，再回味又变成甜，快乐的好像环游全世界，我们的爱最新鲜，保留原味，感情多真，飞越远，感受越明显，不能见太想念，一见面就更依恋，甜蜜是亲吻的瞬间，新鲜保留原味，先尝一遍，闭上眼，情绪特别，感觉上有些酸，再回味又变成甜，快乐的好像环游全世界，我们的爱最新鲜，保留原味，感情多真，飞越远，感受越明显，不能见太想，就更依恋，甜蜜是亲吻的瞬间。
Est-ce que vous avez eu l'impression que les Chinois étaient en quête de spiritualité ou avait une pratique, sinon une façon de vivre où la religion ou les croyances ou l'idéal peut-être en l'homme était important?
Oui, parce que les Chinois, qui sont officiellement un peuple non spirituel, ils ont une infinité de temples, de lieux spirituels où ils peuvent se ressourcer spirituellement. Ce sont des gens paisibles. Ils se battent pas. Ils sont pas. Un exemple, c'est que 4h du matin, vous traversez une grande ville comme Pékin, 40 millions d'habitants. Il n'y a aucun problème d'agressivité, c'est un pays calme, c'est un pays, ils sont des gens passifs, on va dire, ils acceptent les choses comme elles viennent.
Donc, pour un touriste étranger, il n'y a pas à craindre d'agression, de choses comme ça.
Je pense pas comparativement, par exemple, à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui est une ville dangereuse. La Chine est un pays non dangereux. D'ailleurs, on avait rencontré une Française à Pékin qui nous disait qu'après le spectacle, à minuit, elle rentrait 3 km à pied, elle traversait la ville, elle rentrait chez elle sans la moindre appréhension. C'est pas tout à fait possible à l'île, là.
Donc, si on voulait présenter donc un voyage en Chine, pour vous, est-ce que le voyage que vous avez fait sur les quatre villes est un voyage que vous conseilleriez ?
Oui, parce que d'un point de vue découverte d'une autre civilisation et puis d'une richesse patrimoniale, ça vaut la peine. En revanche, je dirais que d'un point de vue humain, on était un peu déçus de ne pas pouvoir se rencontrer plus facilement, j'allais dire les gens, les vrais gens, comme on dit maintenant.
Si vous deviez y retourner, dans quelle ville vous auriez aimé soit retourner, soit une ville que vous auriez aimé découvrir?
Je pense que si on avait la chance de pouvoir retourner en Chine, on essaierait d'éviter les grandes villes et de s'introduire un peu plus dans les petites villes pour rencontrer la vraie vie et les vrais gens.
Et justement, dans cette aventure, est-ce que vous pensez que le voyage en groupe est plus adapté ou est-ce qu'il vaudrait mieux y aller seul? Enfin, quand je dis seul, bien sûr, pour vous, ce serait avec quelqu'un qui vous accompagne, mais dans des conditions plus individuelles, on va dire.
Alors, un voyage individuel permettrait certainement de vivre, de rencontrer autre chose. Mais je ne sais pas si ça serait si facile que ça dans un pays comme celui-là.
Sinon, votre prochain voyage, ce sera ?
Alors, la prochaine aventure qui était prévue début 2008, c'est l'Équateur. L'Équateur, parce que l'association connaît un petit peu l'Asie et l'Extrême-Orient, mais pas encore l'Amérique. Donc l'Équateur étant un des pays les plus bouleversants d'Amérique du Sud, un patchwork des pays andins, on a choisi cette destination. Mais bon, point de vue accueil, il y a beaucoup moins de problèmes qu'en Chine. Par contre, au point de vue matériel, il y aura bien plus de problèmes. Parce que les routes, on n'y croit pas trop. Par exemple, en Chine, on a eu un bus relativement aménagé pour accueillir les personnes handicapées. En Équateur, il n'y en aura pas. C'est-à-dire que si on a un bus surélevé classique, ben, il faudra des bras et des dos pour soulever.
Une autre aventure donc à partager et ça se passera en 2008. On peut donner le site internet de l'association, peut-être on peut retrouver des éléments ou un contact. Donc le site internet a pour adresse www.aventure-partage.org. Claude Boutry, je vous remercie et très bonne préparation de voyage.
Merci beaucoup.
几条。